Bonjour, bienvenue dans Grand Paris, la nouvelle émission de BFM Business consacrée à l'Île-de-France. Aujourd'hui, un sujet qui intéressera aussi bien les fêtards que les couche-tôt. Est-ce qu'on peut encore s'amuser à Paris le soir sans déranger les voisins? Est-ce que convivialité peut rimer avec tranquillité? Pour en débattre, je reçois trois invités. Elisabeth Bourguina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole du réseau Vivre Plus qui représente... Vivre Paris, qui représente les associations de riverains à Paris. Yann Brossat, vous êtes président du groupe communiste au Conseil de Paris et vous avez été l'initiateur des états généraux de la nuit.
Absolument.
Et Tony Gomez, vous êtes le directeur du Queen, la fameuse boîte des Champs-Élysées à Paris. Alors, une première question, peut-être à Yann Brossat. Qu'est-ce qui coince à Paris, puisqu'il y a un an, un collectif de professionnels avait lancé une pétition, notamment autour de la musique électro, qui s'intitulait « Quand la nuit meurt en silence à Paris ». Alors, elle a été signée par plus de 15 000 personnes. Est-ce que Paris est devenue la capitale des bonnets de nuit ?
Je crois en tout cas qu'on a un problème, deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on a une multiplication des conflits, en particulier dans un certain nombre de quartiers, je pense au centre de Paris, entre les riverains et les établissements. Et c'est une situation, et c'est le deuxième constat que je fais, qui conduit parfois à des fermetures administratives. Et ce que nous disons, pour ce qui est des élus de Paris, c'est la raison pour laquelle on a lancé les états généraux de la nuit, c'est que cette situation n'est pas bonne, parce que personne n'a à gagner à ce qu'on ait des établissements qui progressivement ferment, parce que ces établissements contribuent aussi au dynamisme d'une grande ville comme Paris. Moi, je crois que ces établissements de nuit sont aussi une chance pour Paris. Il faut cesser d'en parler uniquement en termes de nuisance. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé ces états généraux de la nuit. Bref, faire en sorte qu'on relance aussi les nuits à Paris, absolument.
Alors, j'imagine, Elisabeth Bourguina, que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec cette présentation.
Pas du tout. Je crois que ça a été l'un des premiers constats des états généraux, de faire un diagnostic complètement différent de celui qui avait été fait par le lobby des établissements de nuit, à savoir que Paris ne meurt absolument pas. Il faut savoir qu'il y a plus d'un millier d'établissements qui restent ouverts à Paris après 2h du matin. C'est quand même tout à fait honorable. Pour la petite couronne, il y en a 60. Donc voilà, tout est réuni à Paris. Et la nuit ne meurt pas. Et si elle mourait, si au moins elle pouvait mourir en silence. Mais c'est absolument pas le cas.
La nuit ne meurt pas en silence à Paris, Tony Gomez.
Je crois que... Je vais mettre un bémol à ce que vous dites. Oui, il y a beaucoup d'établissements. Malheureusement, je trouve que la nuit est presque trop sélective. Et je crois que tout le monde doit trouver sa nuit. Je suis un professionnel, donc en tant que professionnel, je me bats pour que ma nuit, celle de mes établissements, comme j'en ai plusieurs, fonctionne tous les soirs, donc tous les soirs de la semaine.
C'est-à-dire vous avez la boîte de nuit et le cabaret, c'est ça?
Et oui, le cab et le queen. Et donc l'idée, c'est que ça fonctionne. Évidemment, nous, on se bat pour que ça fonctionne. Mais malheureusement, il y a des tas de secteurs, la nuit à plusieurs couleurs, où ça se passe pas bien. Et je pense que ce collectif a eu raison de tirer la sonnette d'alarme en disant « Attention, il y a une nuit destinée à une certaine clientèle qui est en train de disparaître. Je pense que la nuit doit aussi être présente dans le quartier. » Alors, je vais rejoindre les associations de riverains. Oui, on a le droit de faire la fête, on a le droit de s'amuser, mais pas de déranger les autres. Et je pense que l'intérêt des états généraux de la nuit, c'est qu'on a pris une conscience que la nuit était professionnelle. Et comme on s'adresse à des professionnels, donc on a, je pense, des règles à respecter et aussi des devoirs.
Alors, Elisabeth Bourguina, qu'est-ce qui fait qu'il y a une multiplication des plaintes? Est-ce que ce sont alors les boîtes de nuit qui concentrent éventuellement des nuisances sonores, ou est-ce que ce sont au fond la multiplication des bars et restaurants qui peuvent être des petites micro-nuisances par quartier, par rue, et qui expliquent peut-être l'hypersensibilité des riverains?
Je crois que la question des boîtes de nuit, c'est une question classique, mais qui est assez bien prise en charge. C'est-à-dire quand il y a des nuisances très importantes, on fait faire des contrôles et puis ensuite on obtient des travaux. Si on les obtient pas, on obtient une fermeture administrative. Enfin, tout ça est assez bien rodé. Le vrai problème, c'est la multiplication d'établissements qui ne sont pas adaptés à avoir de la musique et notamment de la musique forte. Et aussi le fait que les gens, avec l'histoire de l'interdiction de fumer à l'intérieur des établissements, ont pris l'habitude de sortir. Et moi, je me demande s'il n'y a pas aussi le fait qu'à force de multiplier les établissements où on a de la musique, on a de la musique très fort. Moi, ce que je vois autour de chez moi, c'est des gens qui parlent sur le trottoir. Je crois qu'il n'y a plus d'endroit où on peut avoir de la musique suffisamment bas pour voir parler. Alors les gens sortent pour fumer et leurs amis les accompagnent pour parler. Et ça fait un chahut infernal jusqu'à 2h, 3h du matin.
Yann Brossat.
Ce qui
effectivement le défi, c'est de faire en sorte qu'on ait à la fois la tranquillité pour les riverains et en même temps qu'on laisse les nuits se développer. Mais j'insiste vraiment sur cet aspect-là. Moi, l'idée que les nuits, les établissements de nuit ne sont qu'une source de nuisance, je pense que c'est un discours qui n'est pas audible et en tout cas que moi je n'accepte pas parce que c'est aussi de l'emploi, c'est aussi le dynamisme pour une ville comme Paris. Donc il faut aussi arrêter en permanence de culpabiliser ces établissements de nuit parce que c'est aussi ça qui fait que Paris est une ville vivante, que Paris est une ville qui se développe. Moi, je ne veux pas d'une ville musée, d'une ville sinistre dans laquelle il ne se passe plus rien. Donc encore une fois, je pense qu'il faut quand même tenir un discours équilibré et éviter de trop tordre le bâton dans un sens qui consiste en permanence à expliquer que ces établissements sont dangereux, mal gérés et uniquement une source de problèmes.
Tony Gomez, Paris est une ville musée ?
Non, pas pour l'instant, mais pourrait le devenir. Et je crois que malheureusement, les grandes capitales ne peuvent pas se priver d'une vie nocturne. On se rend compte que c'est un moteur économique très important. Les grands concierges des grands palaces parisiens vous le diront, une absence de nuit, de restaurants vivants, de clubs, de cabarets, etc., c'est un handicap. Les gens veulent tout. Quand on vient à Paris, on veut les boutiques, on veut la journée, mais on veut aussi la nuit, on veut la fête, et on veut surtout retrouver l'idée emblématique qu'on se fait de Paris. Je pense que Paris passe pour une ville festive et elle peut pas se permettre de se priver d'un de ses plus beaux monuments.
Yann Brossat.
Moi, je rejoins complètement ce discours-là. Donc, vraiment, au lieu d'être en permanence dans une logique de conflit, une logique d'affrontement, l'objectif de la ville de Paris, l'objectif des états généraux, c'est précisément de substituer à ça une logique de médiation. C'est-à-dire qu'on se donne, mais on y viendra peut-être tout à l'heure, les moyens de faire en sorte que les riverains d'un côté, les établissements de nuit de l'autre, puissent d'une manière ou d'une autre trouver un modus vivendi et faire en sorte que tout ce monde-là vive tranquillement.
Et quand madame disait tout à l'heure qu'il y avait de la musique tout le temps.
Mais je pense que c'est une vision quand même très très excessive. D'ailleurs, tout à l'heure, j'entendais les infos, les chiffres de l'immobilier à Paris battent des records. Donc si vivre à Paris était un tel calvaire, on n'aurait pas des prix de l'immobilier aussi élevés.
On va en débattre dans quelques instants, on fait une pause pour le moment. Est-ce qu'on peut faire la nuit, est-ce qu'on peut faire la fête sans déranger les voisins et les riverains ? Convivialité et tranquillité peuvent-elles s'entendre et aller de concert. Je rappelle que je reçois Elisabeth Bourguina, qui est porte-parole du réseau Vivre Paris, donc une association qui regroupe les associations de riverains. Yann Brossat, vous êtes président du groupe communiste au Conseil de Paris. Et Tony Gomez, vous êtes le directeur du Queen et aussi du cabaret. Alors juste avant la pause, vous évoquiez le fait que les établissements de nuit font partie de l'attractivité de la capitale, qu'ils emploient aussi pas mal de monde. Elisabeth Bourguina, est-ce que la sensibilité au bruit a augmenté ou est-ce qu'objectivement il y a plus de bruit dans Paris ? En gros, est-ce qu'il y a plus de Parisiens fatigués peut-être par leur journée de travail et qui ont envie et droit à une tranquillité ou est-ce qu'il y a objectivement un niveau sonore qui a augmenté ?
Je pense que surtout le niveau sonore a augmenté, la présence, le niveau sonore dans la rue a augmenté, parce qu'on parle pas simplement du bruit dans les établissements, ça c'était déjà, ça existait, mais maintenant c'est le bruit dans la rue, c'est celui-là qui fait souffrir le plus de gens, et surtout ça a augmenté dans l'espace, c'est-à-dire qu'avant c'était localisé quelques établissements, quelques rues, etc., et on pouvait dire, bon ben voilà, mais maintenant c'est en train de s'étendre à tout Paris. Je prendrai qu'un exemple, notre réseau existe depuis 6 mois, on a déjà 19 associations qui représentent 13 arrondissements, donc on peut pas dire, comme dit mon voisin, que c'est centré simplement sur le centre de Paris. Non, ça touche de plus en plus. Et quand on voit le projet de règlement de terrasse qui va être adopté par la ville de Paris, qui supprime toute limite minimum de terrasse, c'est-à-dire que maintenant, même sur des trottoirs qui font 2 mètres de large, on pourra mettre des terrasses, des trottoirs de 2 mètres de large, vous en avez dans tout Paris. Donc le bruit, la nuit, parce que les terrasses restent ouvertes la nuit, elles n'auront plus l'obligation d'être rangées pendant la nuit, donc ça va s'étendre à tout Paris. Et je voudrais juste faire une précision quand même sur un mot. On parle de muséification. Il faudrait s'entendre sur les mots. Personne ne veut la muséification de Paris, mais la muséification c'est quoi ? C'est le Mont-Saint-Michel où il reste 3 habitants, d'accord ? Tout le Mont-Saint-Michel est occupé par le commerce, etc. Donc la muséification, c'est le départ des habitants. Et c'est à force de donner trop de place aux activités nocturnes qui empêchent la vie des habitants qu'on va aboutir à la muséification et non pas le contraire.
Yann Brossat, est-ce que pour répondre déjà à la question technique, est-ce que la nouvelle réglementation sur les terrasses va encore augmenter les nuisances éventuelles à Paris ?
Non, d'abord, c'est très excessif de dire ça, et puis toutes les terrasses n'ouvrent pas la nuit. Je voudrais juste rappeler que si les terrasses prennent de plus en plus de place, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui viennent et qui profitent des terrasses. Donc il faut aussi voir qu'on a évidemment des gens qui en pâtissent, mais on a aussi des gens qui souhaitent avoir des terrasses et pouvoir faire la fête à Paris, y compris dans ces endroits-là. Mais au-delà de ça, ce que vous venez de dire sur la muséification de Paris est complètement faux, parce que Il y a une des ruptures fondamentales qu'on a constatées depuis 2001, c'est que Paris regagne des habitants. Donc le parallèle avec le Mont-Saint-Michel où il y a 3 habitants n'a absolument aucun sens, puisque
dans
depuis
le premier,
2001,
il y a des écoles qui ferment,
depuis
il y a des
2001,
classes qui ferment.
Il y a des classes qui ferment, mais il y a des suppressions de postes de profs. Mais ça, vous voyez, c'est pas tout à fait la faute de la mairie de Paris. On est sur un autre débat. Non, simplement, Paris gagne des habitants. Donc on n'est pas aujourd'hui dans une logique de muséification. Simplement, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ait progressivement des établissements de nuit auxquels on s'attaque, pas que des établissements de nuit qui sont des boîtes. D'ailleurs, vous avez des cafés-concerts. Et ça contribue à la vitalité d'une ville comme Paris. Et les gens qui habitent Paris veulent la tranquillité, mais ils veulent aussi pouvoir faire la fête. Ils veulent aussi pouvoir, de temps en temps, profiter d'un moment agréable en écoutant un concert dans un café.
Mais est-ce que ces intérêts contradictoires ne pourraient pas quand même être concilié. Quand on regarde toutes les autres capitales, en Italie, Londres, Barcelone, les gens font la fête. Bon, alors en Italie, il y a une tradition où effectivement on sort le soir et personne, ça ne viendrait à l'esprit personne de dire il y a trop de bruit en bas de ma rue. Mais toutes ces capitales restent attractives la nuit et il doit bien y avoir aussi des riverains qui ont envie de dormir. Donc quelle est la spécificité parisienne ?
Bah, c'est la densité, hein. C'est justement le fait qu'il y a énormément d'habitants au kilomètre carré à Paris et qu'on ne peut absolument pas traiter la fête la nuit à Paris comme dans d'autres capitales.
Et à Berlin aussi, il y a du monde.
Alors Berlin, c'est beaucoup plus étendu. Il y a des zones qui sont beaucoup moins habitées et qui permettent certaines adaptations. Mais je voudrais reprendre l'exemple de Londres, qu'on cite souvent parmi les autres exemples. Londres est en train de faire marche arrière, c'est-à-dire qu'ils sont en train de fixer la limite pour ouvrir les établissements de nuit. Je ne sais plus si c'est à 11h du soir ou à minuit. Enfin, ils reviennent vraiment en arrière et ils mettent une taxe qui sera payée par tous les établissements qui resteront ouverts la nuit pour payer la police pour régler les problèmes qu'entraîne l'ouverture de nuit. Donc si on veut aller au bout de la logique, eh ben il faut que les établissements prennent en charge les nuisances qu'ils provoquent dans leur environnement.
Tony Gomez, vous êtes prêt à ça ?
Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vous disiez. Je trouve que la nuit, au contraire, en devenant professionnel, et vous l'avez souligné en disant qu'il y avait plus de problèmes avec les établissements eux-mêmes, mais avec les problèmes de
rue.
Malheureusement, je crois qu'on est tous victimes de la rue, aussi bien les établissements que les riverains, parce que souvent les troubles faits, si je puis dire, sont des gens qui ne sont pas forcément clients chez nous. Et là, on s'attache à un problème évident qui est vraiment très parisien, c'est le problème des transports. Je crois que malheureusement, on a une prise d'otage entre 1h et 5h du matin où vous avez des gens qui sont ni dans les établissements, ni parisiens, et qui ne peuvent pas rentrer chez eux, pourquoi ? Absence de transport en commun, et qui sont désœuvrés dans les rues de Paris, et qui posent des problèmes. Et je crois que malheureusement, on peut pas dire que la nuit est moins sérieuse qu'elle ne l'était. Moi, je suis à Paris depuis presque 30 ans, je peux vous assurer que les professionnels ont fait énormément d'efforts. Tout le monde fait attention. Et d'ailleurs, je vais vous faire un compliment. Je trouve que dans le communiqué de presse que vous avez fait, vous avez dit « on est conscient que les professionnels font des efforts » et vous êtes conscient qu'il y a également des gens qui ne font pas leur travail ou leur métier correctement. Et je vous rejoins complètement. Et je trouve que l'intérêt de justement des états généraux de la nuit, c'est qu'on est à la même table, on ne crie pas. Et on regarde dans le même sens. Pour l'instant, on n'est pas encore d'accord sur tout, parce que malheureusement, madame nous parle de points de détail. Moi, je vais parler peut-être de choses plus générales. Mais une chose est certaine, c'est que ceux qui posent des problèmes ne sont pas forcément des clients. Et on est face à une nouvelle génération, j'ai presque envie de dire, de gens mal élevés, incontrôlables, ingérables, que nous, professionnels, on n'a pas la possibilité de gérer. Et peut-être qu'il n'y a pas assez de services de police pour faire respecter la tranquillité dans les rues.
Alors Yann Brossa, est-ce qu'on manque d'abord de personnel de police ? Première question. Et deuxièmement, est-ce que ce sont des clients extérieurs, donc au restaurant, aux boîtes de nuit, qui sont mal élevés, comme dit Tony Gomez ? Est-ce qu'il y a une sorte d'incivilité rampante qui se développe le soir et qui explique ces exaspérations ?
Moi, je ne pense pas que la solution vienne d'abord de la police, même si quand il y a des dérives graves, on peut imaginer que la police intervienne. Pour moi, il faut vraiment réussir à imposer une logique de médiation, à faire en sorte que systématiquement on ait cette logique-là qui prime sur la logique de conflit. Et d'ailleurs, l'un des éléments qu'on a souligné dans les états généraux de la nuit, c'est cette volonté d'avancer dans la médiation, d'avoir par exemple dans chaque arrondissement des pôles qui travaillent spécifiquement à des médiations et qui permettent d'éviter qu'on ait des conflits directs entre les riverains et les établissements de nuit. Moi, je crois vraiment que c'est par le dialogue qu'on s'en sortira. Il y a par exemple une solution qui existe à Barcelone qui consiste à embaucher des mimes qui viennent discuter avec les clients qui sont dehors pour les inciter à baisser de ton. Ça fait rire comme ça. Cela dit, à Barcelone, ça fonctionne. Et je ne vois pas pourquoi ce qui fonctionnerait à Barcelone ne fonctionnerait pas à Paris. C'est anecdotique, mais c'est une des pistes. Enfin, en tout cas, qu'on ait des intervenants extérieurs qui permettent de faire médiation entre les riverains et les établissements de nuit, moi, ça me paraît très utile pour éviter justement qu'on soit dans le clash systématique.
Elisabeth Bourguina, les médiateurs, c'est utile? Est-ce qu'on peut mettre un médiateur derrière chaque restaurant?
Il y a deux choses. Il y a une chose, comme l'a dit mon voisin, qui est totalement anecdotique, c'est cette histoire de mime et de clown qu'on va mettre dans la rue pour dire aux gens de faire moins de bruit. Il faut savoir, puisqu'on a participé aux ateliers de préparation des états généraux, il y aura une équipe dans tout Paris. Quand vous savez que c'est 1000 établissements de nuit, j'ai pas besoin de vous dire qu'on verra pas la différence. Et en plus, j'ai parlé à une journaliste espagnole qui m'a dit, mais pourquoi ils disent tous que ça marche à Barcelone? Ça marche absolument pas. Première chose. Deuxième chose, la médiation. Ah, c'est une journaliste espagnole qui connaît très bien Barcelone.
Une journaliste qui se lève tôt, elle travaille à la radio, à la télé.
Non, je pense qu'elle fait la fête, elle était jeune, il n'y a aucun problème. La deuxième chose, c'est sur la médiation. Nous, on est pour la médiation et on va aller à la médiation. Mais on se range à l'avis du préfet de police et de son représentant qui participait aux états généraux, à savoir, c'est de dire, la médiation ne remplacera pas la loi. La loi dit que chaque personne tout citoyen a droit au silence pendant la nuit, et donc il faut absolument que les établissements gèrent non seulement l'intérieur mais aussi devant chez eux. S'il y a d'autres personnes qui viennent et qui rentrent pas chez eux et qui font du bruit devant chez eux, c'est peut-être aussi parce que les tarifs sont un petit peu élevés. J'ai entendu des choses comme ça pendant les états généraux. La fête, c'est pas pour tout le monde à Paris.
Et donc, si les gens voulaient en plus abaisser le niveau d'entrée, le tarif d'entrée dans les boîtes de nuit, là vous allez augmenter les nuisances.
Ils se massent devant les endroits où il y a du bruit. Et donc, moi, je voudrais citer un exemple qui n'a rien à voir, que je vais prendre dans un tout autre domaine. J'habite dans le premier arrondissement, rue des Bourdonnais. Il y a un centre d'accueil pour des SDF, qui est donc géré par Emmaüs. Pendant des années, ça a été un problème avec tous les riverains, parce que les SDF étaient dans la rue, faisaient plein de bruit, faisaient plein de choses le jour, la nuit, etc. Et Emmaüs disait, c'est pas mon problème, ça se passe devant chez moi. Il y en a même qui viennent pas chez moi, qui sont là, je sais pas qui c'est. Voilà, ça a duré des années. Il y a eu un jour où ils se sont pris par la main et ils ont pris des animateurs ou des éducateurs, je sais pas quoi, de rue pour gérer la rue. Quand vous avez un établissement qui sert comme ça d'attraction, il faut gérer la rue. Vous pouvez pas dire, c'est pas mon problème, tant pis pour les autres qui sont dessus. Non. Et tant que ça continuera, moi je vous prédis que les recours ne vont pas cesser de se multiplier dans les années qui viennent s'il n'y a pas vraiment une prise en charge sérieuse de ce problème de la rue. Voilà.
Yann Brossat, des recours, il y en a de plus en plus ?
Il y en a de plus en plus. J'ai bien compris que dans le discours que tient ma voisine, les SDF sont une source de nuisance. Là aussi,
non,
je ne partage pas.
Je suis très mobilisée sur les SDF. Évidemment,
pas son point de vue, mais vraiment, essayons de sortir de cette logique de recours administratif. Vous savez, quand on est riverain,
combien il y a de recours administratifs aujourd'hui?
J'ai pas les derniers chiffres là, mais on a effectivement une multiplication. Hein. D'ailleurs, la préfecture nous le dit. Cela dit, essayons de sortir de cette logique de conflit systématique. Moi, je suis riverain aussi. J'ai pas envie de passer ma vie à faire des recours administratifs, aller au tribunal. Notre volonté à tous, c'est quand même de réussir à faire en sorte qu'on soit dans une logique de dialogue. Je crois que c'est pas une vie de passer son temps à aller au tribunal.
Oui, mais là, on voit bien que les intérêts sont quand même très contradictoires. Tony Gomez, on dit beaucoup que les établissements de nuit, justement, ont beaucoup, enfin, c'est en tout cas le discours que vous tenez, les syndicats de votre profession tiennent, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de réglementations.
Mais donc, on nous demande beaucoup, je vais répondre aux deux questions aux deux propos que vous avez avancés. Oui, nous sommes chers, mais nous avons tellement d'obligations, de sécurité, de travaux, etc. Malheureusement, ça se retrouve dans le prix de vente de nos consommations. Et je peux vous assurer que les consommations, un verre ne coûte pas tellement plus cher que dans un café normal ouvert à 2h du matin. Donc, je pense pas qu'on soit dans l'exagération. En revanche, on nous demande énormément. On nous demande de faire un travail qui n'est pas le nôtre. On nous demande de faire un travail de police. Quand vous nous dites de faire la police devant nos établissements, je peux vous assurer que ça a coûté cher à certains de mes confrères qui ont voulu faire respecter le silence ou la tranquillité dans la rue. Ça s'est terminé en échauffourée avec les troubles faits. Malheureusement, ça a conduit à des fermetures administratives parce que malheureusement, on n'a pas le droit de faire la police. On n'est pas là pour ça. On nous demande de faire respecter l'interdiction de fumer, on nous demande de faire attention aux mineurs, on nous demande de faire attention à l'alcoolémie, on nous demande de faire attention que nos clients ne partent pas avec leur voiture en état d'ébriété, on nous demande énormément, on nous demande qu'il n'y ait pas de bruit devant nos établissements, et surtout on nous tient responsables en disant, et c'est un discours qui est un peu dur à mes yeux, de dire voilà, si vous n'étiez pas là, les gens ne viendraient pas. Malheureusement, dans ces cas-là, faut carrément fermer la nuit à Paris et dire, évidemment, s'il n'y a plus d'établissement, il n'y aura plus personne dans les rues. Hein. Mais dans ce cas-là, faisons un couvre-feu. Et là, on est dans l'exagération totale.
Je crois qu'on n'en est pas encore au couvre-feu à Paris. Yann Brossat, vous voulez ajouter une réflexion.
Moi, je partage ce qui vient d'être dit. J'ajoute un élément quand même, c'est que les établissements qui trinquent le plus, ce sont les petits établissements, les établissements qui ont peu d'argent et du coup n'ont souvent pas les moyens de s'insonoriser. Donc, une des propositions que nous faisons, que la ville de Paris fait, c'est précisément d'avoir des prêts à taux zéro, bref, des aides qu'on donne aux établissements pour leur permettre de s'insonoriser. Sinon, ce sont les petits qui trinquent, les petits qui vont fermer et souvent aussi ceux qui proposent des prix qui parfois ne sont pas trop élevés.
Elisabeth Bourguina, si vous regardez un peu la totalité des recours, c'est plutôt contre des grands établissements ou contre des petits établissements, comme vient de le dire Yann Brossat?
Moi, je dois dire, je pense, je n'ai pas fait de statistiques, oui. Hein, mais je pense que les grands établissements, une fois s'ils ont géré leurs problèmes en interne dans l'immeuble, c'est-à-dire de vraiment s'insonoriser, etc., c'est vrai qu'ils ont plus de moyens pour le faire. Après, ce qu'ils ont à gérer, c'est la sortie, c'est-à-dire les moments où, en plein milieu de la nuit, il y a la fin d'un spectacle, et puis vous avez 400 personnes qui sortent dans la rue, et là, il y a des dispositifs d'accompagnement qui sont quand même envisageables. Je ne sais pas si c'est fait partout, parce que c'est ponctuel. Le problème, c'est ceux qui font leur business dans la rue. Vous avez maintenant un phénomène qui se répand, c'est que les gens ne sont plus dans l'établissement. Vous avez 200 personnes devant un établissement qui en contient 50, qui en contiendrait 50. Vous avez 200 personnes devant qui sont avec leur verre, avec leur clope, avec rien du tout parce que les gens se greffent là-dessus, etc. On passe un coup de fil, puis il y en a d'autres qui arrivent. C'est le salon, c'est le cocktail dans la rue. Et ça, comment voulez-vous qu'ils gèrent ça puisque c'est leur business? Alors, ils ont absolument pas envie de mettre fin à ce système-là. Et c'est ça qui est absolument invivable. Moi, je dis simplement, le sommeil. Alors là, je m'inscris totalement en faux contre une formule qu'a employée Bertrand Delanoë. C'est un pur scandale. Il a dit que les Parisiens étaient capricieux parce que de temps en temps ils voulaient dormir. Ce n'est pas un caprice de dormir, c'est un besoin fondamental, c'est une question de santé publique. Tant que ce besoin fondamental ne sera pas satisfait, je peux vous assurer que des gens mécontents vous en verrez de plus en plus.
Alors laissons les Parisiens dormir, on se retrouve après la deuxième pause. Alors retour avec notre débat sur la nuit à Paris. Est-ce qu'on peut continuer à s'amuser le soir à Paris sans déranger les voisins? Je rappelle que je reçois Elisabeth Bourguina, qui est la représentante du réseau Vivre Paris, donc qui représente les associations de riverains. Yann Brossat, élu communiste à Paris et qui a beaucoup œuvré pour les états généraux de la nuit. Et enfin Tony Gomez, le patron du Queen et du Cabaret. Alors juste avant la pause, vous évoquiez peut-être des pistes, puisqu'on a bien vu que vous n'étiez pas du tout d'accord, ni Yann Brossat, ni Elisabeth Bourguina, sur les constats et ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'au moins, sur les solutions proposées, des pistes de conciliation peuvent être évoquées? Est-ce que les états généraux de la nuit ont donné quelque chose? Et vous évoquiez, juste avant la pause, Yann Brossat, l'intention de la ville de Paris de participer au financement de l'insonorisation de certains établissements. Julien Drey, au niveau de la région, a également proposé que 30%, peut-être à hauteur de 30% de participer à ce soutien financier, de proposer ce soutien financier. Qu'en est-il? Est-ce que c'est une solution, Yann Brossat?
Il faut vraiment essayer d'élaborer toutes les possibilités de solutions. Donc à la fois l'insonorisation, même si l'insonorisation ne règle pas le problème des gens qui restent dehors, hein, et notamment des conséquences de l'interdiction de la cigarette. Mais enfin, en tout cas, l'insonorisation, c'est un des éléments, et moi je pense qu'il faut pousser très fort, parce que ça, pour le coup, c'est une solution gagnant-gagnant, qui profite à la fois aux riverains et aux établissements. Et puis dans le même temps, tous les dispositifs de médiation pour éviter les phénomènes dont on a parlé tout à l'heure, de concentration devant les établissements. Mais vraiment, la stratégie centrale, c'est le dialogue, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc je pense
Mais là, il n'y a pas de dialogue. On voit bien qu'il n'y a pas de dialogue.
Mais précisément, parce qu'il n'y a pas de dialogue aujourd'hui, il faut qu'on ait des intervenants extérieurs qui permettent que ce dialogue s'installe. Ou alors, sinon, on laisse les gens s'entretuer et on ne règle jamais les problèmes. Puis je pense aussi, mais d'après ce que je comprends, il n'y a pas d'hostilité franche des associations de riverains à l'égard de cette idée-là. Je pense que c'est la seule solution. Sinon, on entre dans une logique de guerre permanente.
Elisabeth Bourguina?
Je pense que la sonorisation, d'une part, nous, ça nous gêne un petit peu quand même que ce soit le contribuable qui finance, disons, la lutte contre les nuisances qui sont engendrées par une activité. Si c'est une activité économique, elle doit normalement servir à couvrir ses propres dépenses. Mais cela mis à part, Yann Brossat l'a dit lui-même, ça ne réglera absolument pas le problème, puisque la question des nuisances dans les immeubles, encore une fois, c'est relatif. On arrive à s'en sortir, on arrive à obliger les établissements à faire les travaux. Le problème, c'est la rue. Et la rue, tout le monde se repasse la patate chaude, hein. Simplement, c'est toujours les mêmes qui trinquent, c'est-à-dire les gens qui habitent dans ces rues-là. Et donc l'insonorisation, vous comprenez bien que ça ne fera aucune différence dans ce qui se passe dans la rue.
Tony Gomez, on vous donne quitus là à l'instant. Hein.
Oui, non, mais là, c'est vrai que j'ai envie un petit peu de me dresser contre ça. On peut pas nier une évolution de la société. Malheureusement, la nuit a évolué. Elle intéresse tout le monde. Avant, c'était l'élite ou les marginaux qui étaient dehors. Maintenant, on reconnaît que toute la société consomme la nuit sous toutes ses formes. Et malheureusement, les villes à la campagne, on a vu que ça marchait pas en 68, bah la campagne à la ville, ça marchera pas non plus en 2010. Et on malheureusement, quand on vit en ville, on doit accepter cette vie nocturne qui, comme la vie de la journée, les infirmières qui bossent toute la nuit, je vous assurais que la journée, c'est beaucoup plus difficile de dormir que le jour.
Oh, mais il y a moins d'infirmières qui dorment le jour que de gens qui dorment la nuit.
On a besoin des infirmières qui travaillent la nuit.
Yann Brossa.
Je voudrais revenir sur ça parce qu'à mon avis, depuis tout à l'heure, au fond, on tourne autour de ça. La question qui se pose, de mon point de vue, à travers cette affaire des nuits, c'est la question de la conception de la ville. Est-ce qu'on considère qu'on veut être dans une ville qui est précisément une ville musée, une ville où il ne se passe rien, une ville déserte? Moi, ça n'est pas ma conception de la ville. Quand on vit à Paris, quand on s'installe à Paris, et on paye cher quand on veut s'installer à Paris, on sait très bien qu'on a une ville où il y a des restaurants, où il y a des cafés, et ça va avec une part de nuisance. D'ailleurs, on parlait de la campagne tout à l'heure, Tony Gomez parlait de la campagne. À la campagne, il y a du bruit aussi. Vous avez le bruit de l'église, vous avez bruit du coq à 6h du matin.
Justement, mais vous avez vu que les tribunaux ne rendent pas raison aux Parisiens qui vont s'installer à la campagne en leur disant que c'est normal que le coq chante en campagne.
Ce qu'on accepte à la campagne, le bruit qu'on accepte à la campagne, il faut aussi accepter qu'on ait d'autres bruits, d'autres natures de sons qu'on entend quand on habite en ville. Voilà, donc moi je suis vraiment pour qu'on fasse en sorte que des logiques de médiation s'imposent, mais il faut aussi accepter que la ville va avec sa part de bruit, avec sa part de son, et ne pas être complètement intolérant à l'égard de toute forme de bruit. Sinon, on entre dans une logique complètement aseptisée et on n'est plus à Paris, on est à Rodez, quoi.
Donc le coq est à la campagne, ce que la boîte de nuit est à la ville. J'en retiens cette idée. Dans les pistes qui ont été évoquées, vous disiez tout à l'heure, permettre aux gens de rentrer tard en métro chez eux, ce serait une solution. Réellement,
Yann Brossa ? Moi, j'y suis favorable à condition, évidemment, qu'on ait les embauches nécessaires.
Elisabeth Bourguina, est-ce que cette solution-là, vous trouvez qu'elle a un sens?
Moi, je pense que la seule piste qui soit valable, c'est de reconnaître la légitimité des Parisiens habités à Paris. Chaque fois, tant qu'on nous tiendra le discours qui consiste à dire, si vous n'êtes pas content, allez à Rodez, ce que nous vient de dire mon voisin, ce que nous a dit le maire lui-même, on n'avancera pas. On ne peut pas développer une activité en niant les autres. Je regrette, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que tout le monde maintenant vit la nuit. Non, monsieur, vous êtes encore extrêmement minoritaire.
Tout le monde consomme la nuit.
Non, tout le monde consomme pas la nuit. Tout le monde consomme pas la nuit. Je ne sors pas. Il y a plein de gens comme moi qui sortent pas, des gens jeunes aussi qui ne sortent pas, tout simplement parce qu'ils travaillent le lendemain matin à 8h, à 7h. Il y a des étudiants, il y a des enfants, il y a des tas de personnes qui ne vivent pas la nuit. Vous pouvez pas revendiquer d'avoir toute la place alors que vous êtes minoritaire. Donc moi, je crois que tant qu'on ne voudra pas admettre, et d'ailleurs, pendant les états généraux, il y a eu quelque chose de très intéressant. C'était une présentation sur le plan de la santé publique, simplement. Et ce qu'essaie d'affirmer Yann Brossa est complètement faux, que le jour pourrait être équivalent à la nuit. Finalement, il y a des gens qui travaillent la nuit, donc finalement, pourquoi on n'aurait pas du bruit la nuit et le jour. C'est complètement faux. On ne vit pas pareil. Les gens qui travaillent la nuit, ils ont des troubles qui entraînent des pathologies, qui posent des problèmes. Mais si, ça a été dit aux états généraux, vous y étiez avec moi, donc vous avez dû l'entendre. Donc, on ne peut pas dire le jour égale la nuit. Non, je maintiens, c'est un problème grave. Si on empêche les gens de dormir, ça fait des problèmes aussi dans le travail. On parle d'impact économique. Je regrette. Les gens qui se mettent en dépression nerveuse, qui peuvent plus aller travailler, qui perdent leur boulot, etc., c'est un impact économique aussi. Et sur le plan du tourisme, vous avez tous les hôteliers qui ont été singulièrement écartés de ces états généraux. Eux, c'est avec la nuit qui dort, qui font de l'argent. On les a pas du tout entendus. On a donné vraiment la parole au lobby des gens qui veulent faire du bruit la nuit. Et ben, même eux, c'est pas eux qui pèsent le plus sur le plan économique.
Yann Brossa, les états généraux ont été partiels?
Je pense pas du tout. Je pense précisément que les états généraux, c'est le premier moment où on a réussi à mettre autour d'une même table, ce qui n'était pas évident, je le dis au passage.
On s'en rend compte
l'ensemble des acteurs. Voilà. Donc je pense que c'est déjà un premier pas. Simplement, moi, ce que je regrette quand je vous écoute, c'est qu'à chaque fois qu'on propose quelque chose, vous dites non. Quand on propose l'insonorisation, qui est quand même une solution pratique, vous dites de toute façon, ça servira à rien. Quand je vous dis médiation, vous me dites de toute façon, c'est le respect de la loi. Quand je vous dis, il faut aussi tenir compte du fait que la nuit est un espace important. Pourtant, vous me dites, la nuit n'est pas égale au jour. Ce que d'ailleurs, moi, j'approuve. J'ai jamais dit qu'il fallait que la nuit soit aussi active que le jour. Simplement, voyez, vous êtes dans une logique de niette systématique. Moi, je pense vraiment que si ces états généraux ont réussi à avancer, c'est précisément qu'ils ont permis d'élaborer quelques pistes de solutions. Donc vraiment, essayons de nous appuyer là-dessus pour avancer, plutôt que de balayer d'un revers de main tous les débuts de solutions qu'on a commencé à élaborer.
Alors Elisabeth Bourguina, vous refusez tout en bloc ?
Non, c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. On accepte d'abord, on a participé aux états généraux, on a participé même à la préparation des états généraux, on est d'accord pour participer à la médiation, mais simplement la médiation. On est tous pour la médiation, mais le problème c'est que elle est mal posée d'emblée. C'est-à-dire que la médiation, pour un certain nombre de personnes qui ont participé à ces états généraux, ça serait que les riverains veuillent bien devenir plus tolérants et veuillent bien supporter. Non, moi je dis, quand il y a deux personnes dont l'une tape à coup de marteau sur la tête de l'autre, la médiation, ça peut pas être que celui qui prend des marteaux, il est le sourire, vous voyez. C'est forcément que les coups de marteau s'arrêtent et après on peut discuter. Alors la médiation, c'est pour essayer de trouver des, pour faire comprendre aux gens comment, jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent pas aller, et le faire en se parlant. Ça, je suis tout à fait d'accord, plutôt que d'envoyer systématiquement la police et tout. Mais si vous voulez, on va le faire, on va continuer à le faire. Mais il y a des tas de gens avec qui on l'a fait, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça que dans tous les bilans de mandat de Delanoë l'an dernier, il y a eu, et ça, je pense que c'est en train de se passer maintenant, de plus en plus de gens dans tous les quartiers de Paris qui disent stop, ça suffit, protégez-nous. Aidez-nous à dormir, protégez-nous. Parce que sinon, vous savez, je vais tenir le seul langage qu'un élu peut entendre, c'est que les fêtards la nuit, ça représente pas beaucoup d'électeurs, surtout qu'il y en a qui sont pas parisiens et surtout qu'il y en a qui votent pas. Si vraiment on empêche les gens de dormir, ça va se retrouver dans les urnes et je crains que...
Quand je regarde les résultats des dernières élections, je suis plutôt confiant.
Mais pensez aux suivantes, je crois que ça se prépare beaucoup moins bien pour les suivantes.
À droite qu'à gauche. Juste pour conclure, vous êtes quand même tous d'accord pour dire que la nouvelle réglementation sur le tabac a considérablement contribué à mettre du bruit dans Paris, quoi.
Elle a des conséquences évidentes. Cela dit, moi, je suis vraiment pas pour qu'on revienne dessus. C'est-à-dire qu'il faut gérer la situation nouvelle qui a été créée par l'interdiction du tabac. Cela dit, revenir là-dessus, ça serait, à mon avis, très mauvais. Et pour les gens qui viennent dans les établissements de nuit et pour ceux qui y travaillent, parce que s'ils doivent subir la fumée en plus, c'est pas bon.
Tony Gomez.
Et je tenais à signaler également, suite à cette interdiction de fumer dans les lieux publics et dans les lieux de nuit, que malheureusement, c'est ceux qui font respecter la loi qui sont pénalisés. Actuellement, il y a des tas d'établissements qui ne le respectent pas. Donc,
du point de vue du tabac ou du bruit, là ?
Du tabac, évidemment. Mmh. Donc, chez qui on peut fumer en toute impunité. Et du coup, ils n'ont pas les problèmes de nuisance auxquels madame fait allusion quand on fume devant leur établissement.
Très bien.
Et là, c'est dommage qu'on
finisse... Merci de cette conclusion. On est obligé de rendre l'antenne. On aurait pu faire 2 heures de débat. Et nous retrouvons après. Bonjour. Comme tous les jours, à la même heure, nous retrouvons notre invité culturel pour une petite respiration de fin d'émission, une idée de sortie, une exposition, une pièce de théâtre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Bouillon, le metteur en scène de Cyrano de Bergerac à la Cartoucherie de Vincennes au Théâtre de la Tempête. Gilles Bouillon, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes attaqué à un monument...
Oui, un monument du théâtre français.
Voilà, du théâtre français, qui est une pièce très connue, très populaire, mais qui n'est pas autant montée que je le pensais.
Écoutez, elle n'est pas autant montée pour des raisons économiques, parce que
il y a trop de figurants.
Voilà, non, même des acteurs. Elle demande une distribution trop importante. On sait qu'il y a à peu près 45 rôles, 50 rôles. Donc là, c'est impossible aujourd'hui de réunir 45 ou 50 comédiens sur un plateau. Donc là, si vous voulez, j'ai réuni 17 comédiens sur un plateau, et sur les 17, il y a 6 rôles inamovibles, 6 comédiens qui joue du début, dont Cyrano évidemment,
oui,
qui joue du début jusqu'à la fin le même rôle, et après les 11 autres comédiens se partagent les 40 rôles restants.
Ah, ils font 2-3 rôles chacun.
Oui, 2-3-4 rôles, et c'est assez magnifique parce que ça participe à la vitalité et à l'énergie du spectacle.
Alors Christophe Brault est le protagoniste.
Oui.
Cyrano, vous le connaissez, vous aimez bien faire jouer des acteurs que vous connaissez.
Oui, j'aime bien faire jouer. Enfin, vous savez, quand on monte Cyrano de Bergerac, il faut pas se dire tiens, je vais monter Cyrano de Bergerac, et puis je vais chercher un acteur susceptible de jouer ou capable de jouer Cyrano de Bergerac.
Partez de l'acteur pour.
Voilà. Donc, si vous voulez, on part de l'acteur. Donc là, Christophe Brault, qui avait déjà travaillé avec moi dans Othello de Shakespeare et qui jouait Iago, qui est le plus gros rôle d'Othello de Shakespeare. Donc, c'est un comédien formidable en qui j'ai entière confiance. Parce qu'il faut pas oublier quand même que Cyrano, c'est le rôle le plus grand de tout le répertoire. C'est-à-dire sur 2500 vers de Rostand, il dit plus de 1500. Donc, si vous voulez, c'est aussi un sportif de haut niveau, Cyrano de Bergerac.
Et en plus, on oublie, mais parce que peut-être on a le film en tête, mais oui. Ce sont des Alexandrins, donc il y a un travail de diction.
Absolument.
D'ailleurs, qui est particulièrement sensible dans
absolument.
Votre mise en scène.
Absolument, ce sont des Alexandrins, et puis c'est pas du cinéma. Le cinéma, ça coupe en tranches. On tourne par séquence de 40 secondes, 1 minute, 2 minutes. Donc c'est fatigant le cinéma, mais pas autant que le théâtre. Là, le pari que fait Christophe Brault, c'est de tenir le plateau avec 16 autres camarades, mais pendant 2h50, du début jusqu'à la fin.
Alors, quelle est votre lecture de la pièce ? C'est un Cyrano sombre, dramatique ?
Non, écoutez, voilà, Cyrano, il y a évidemment qu'il y a plusieurs époques dans l'interprétation du personnage de Cyrano. C'est vrai que Depardieu, il y a 20 ans, dans le film de Rapneau, a donné un grand coup de neuf à l'interprétation du personnage de Cyrano. Mais le théâtre, c'est pas du cinéma. Depardieu, c'était du cinéma. Nous, on fait du théâtre. Donc, si vous voulez, tout en respectant absolument l'œuvre de Rostand, les Alexandrins, comme vous le disiez, j'ai essayé de donner une sorte de balayage, un coup de neuf. Et souvent, on montre le côté matamor ou fanfaron du personnage de Cyrano. Mais en fait, c'est un écorché, Cyrano. C'est un être excessivement sensible. C'est un être amoureux qui, peut-être à 40 ans, il n'a toujours pas osé avouer son amour à la femme qu'il aime, à son ami d'enfance depuis 35 ans. Donc, c'est plutôt vers ça que va la mise en scène.
C'est un Cyrano lyrique et romantique un peu.
Romantique, lyrique, romanesque aussi, parce qu'il faut pas oublier que la plus grande source d'inspiration de Rostand, ce sont les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, qui est un peu antérieur, mais si vous voulez, il se sert de toute cette littérature-là et de toute la littérature du théâtre qu'il précède, notamment Molière et Corneille.
Vous avez un parti pris classique? Il y a des costumes.
Oui, c'est-à-dire que si vous voulez, mais c'est du classique revisité. C'est-à-dire le théâtre, c'est le contraire du musée. Le théâtre, c'est un art vivant fait par des gens d'aujourd'hui, vous, moi, pour du public d'aujourd'hui, encore vous et moi, et ici et maintenant. Donc, si vous voulez, il s'agit pas de refaire la énième mise en scène de Cyrano, mais il s'agit de voir par rapport à notre sensibilité, mettons, contemporaine, ce qu'on peut faire avec Cyrano sans être idiot et mettre tout le monde en blue jean ou en tennis. Il s'agit pas de ça du tout, mais il s'agit de faire aussi une lecture intéressante de ce 17e 19e siècle.
Alors vous avez gardé ce que vous appelez la forme concertante, donc oui. On chante aussi, oui. Et sur scène, oui. Pourquoi? Oui.
Bah écoutez, moi je suis metteur en scène d'opéra aussi, je mets en scène beaucoup d'opéra, et en fait Cyrano de Bergerac, c'est un opéra parlé. C'est-à-dire il y a une forme à la fois concertante comme vous disiez et puis opératique, dans la mesure où c'est une alternance de scènes de groupe où tout d'un coup vous avez 17 personnes en scène et puis tout d'un coup la scène d'après, vous avez plus que 2 ou 3 personnes dans une scène excessivement intime. C'est exactement la structure de l'opéra où à l'opéra vous avez des duos,
vous avez
des trios, vous avez des quatuors, prenons Mozart par exemple, et puis vous avez aussi des grosses scènes de groupe, j'en sais rien, dans Giovanni, quand les paysans arrivent au moment de la noce, des choses comme ça. Donc si vous voulez, oui. Et c'est pour ça que les compositeurs qui ont essayé d'écrire des opéras à partir de Cyrano de Bergerac, entre guillemets, se sont plantés. Parce que Cyrano de Bergerac, de par la musique de l'Alexandrin, est une œuvre musicale, opératique et concertante en elle-même.
Alors la diction du protagoniste, hein, Christophe Brault, est exceptionnelle, il a fait le conservatoire.
Oui, il a fait le conservatoire.
Donc ça s'entend.
Oui, ça s'entend, oui.
Roxane est maligne dans votre interprétation.
Ah oui, c'est-à-dire que Roxane, on en fait souvent une ravissante idiote, et c'est pas ça du tout, on en fait une précieuse dans tous les clichés, oui. que peut comporter ce terme. Or précieuse, si vous voulez, à cette époque-là, au moment où Rostand retranscrit son œuvre au XVIIe siècle, c'est plutôt une amoureuse. Une amoureuse de la littérature, une amoureuse de l'amour. Mais quand elle découvre comme ça ce beau gars qui s'appelle Christian, ben, si vous voulez, ça passe du cerveau au corps entier et son amour devient organique, physiologique et évidemment a besoin de mots, mais aimerait bien aussi, tombe amoureuse aussi de l'apparence physique de Christian. Donc si vous voulez, c'est une Roxane qui sait ce qu'elle veut aussi.
Une femme moderne.
C'est une femme tout à fait moderne, tout à fait contemporaine.
Mais elle aime quand même que son amoureux ait de l'esprit.
Elle aime que son amour.
C'est ça qui est compliqué dans la vie de.
Bah oui.
Les deux.
Est-ce qu'on peut avoir les deux? Est-ce qu'on peut avoir entre guillemets un physique avantageux et une parole libre, poétique, heureuse? Alors donc, si vous voulez, là vous touchez exactement le cœur de la pièce. Il y a un pacte diabolique pratiquement faustien entre Cyrano et Christian. À eux deux, ils font un monstre à deux têtes. C'est-à-dire, il y en a un qui a la parole, Cyrano, qui est un poète, qui est un type très brillant au niveau de la parole. Et puis il y en a un qui a l'apparence, qui a un beau gars, voilà. Et donc,
mais
deux,
pas un bellâtre quand même.
C'est pas du tout un bellâtre, voilà.
dans votre interprétation, on peut le dire.
Oui, c'est pas un bellâtre dans la mesure où, si vous voulez, on a souvent l'habitude d'en faire une espèce d'imbécile, mais pas du tout. C'est un gars qui arrive de la campagne, il arrive de Touraine, c'est très marrant, et donc il n'a pas encore, si vous voulez, les habitudes du monde. Mais vous savez, quand Rastignac, dans les romans de Balzac, arrive à Paris dans Les Illusions Perdues, ou dans Splendeur et Misère des Courtisanes, eh ben, il est pas très dégourdi, le jeune poète Rastignac. Et c'est un peu, Christian, c'est un peu un Rastignac, et on peut dire qu'en 3 heures de temps, en fait, puisqu'il meurt à la fin du 4e acte, à la guerre, il a une éducation, comme dirait Flaubert, une éducation sentimentale parfaite en 4 actes. Et sa langue, petit à petit, se délie.
Cyrano et son Pygmalion, c'est ça?
Absolument, absolument. Ouais. Ouais.
Alors, on a vu tout à l'heure quelques scènes à l'écran, on a vu les décors. Donc, vous disiez, je reviens un peu à ce que vous disiez au début, c'est très difficile de monter une pièce comme ça parce que ça coûte très cher.
Oui.
Donc, heureusement que c'est subventionné, on va dire.
Ah ben oui, vous savez, dans le théâtre, il y a à la fois le théâtre public, donc le théâtre qui est subventionné, puis il y a le théâtre privé, mais qu'il faut pas séparer à ce point-là. Le théâtre privé dépend effectivement absolument à 100% de la recette guichet. Le théâtre public à 50% des recettes guichet et puis à 50% est subventionné. Mais donc, si vous voulez, je pense qu'au théâtre privé aujourd'hui, on pourrait plus monter une pièce comme Cyrano de Bergerac parce que ça coûte trop cher. 17 acteurs, le théâtre privé n'aligne jamais 17 acteurs.
Ouais,
par contre, le théâtre public effectivement permet ça. Mais si vous voulez, avec en même temps, puisqu'on parle économie là, avec des recettes importantes. Dans la mesure où les salles sont pleines et où même si le coût plateau, on appelle coût plateau, c'est-à-dire ce que coûtent les comédiens, le décor, tout ça, la recette n'est jamais égale au coût plateau.
Très bien, mais je vous remercie beaucoup, Gilles Bouillon. Donc je rappelle que Cyrano de Bergerac, c'est à la cartoucherie de Vincennes, au théâtre de la Tempête. Jusqu'à quand?
Jusqu'au 12 décembre, et après ça tourne dans toute la France jusqu'à la fin du mois de juillet.
Alors il faut se dépêcher pour prendre des places. Et pour ma part, je vous retrouve demain pour un autre débat du Grand Paris sur la biodiversité en Île-de-France.